Les titres du journal.
Un rendez-vous artistique, créatif et participatif ayant pour thème la santé par l'alimentation. Voilà ce que sera le festival 1.1. Ce dernier aura lieu à Aigle du 20 au 22 août prochain et on vous en parle dans ce journal. La nuit du Bélier aura bien lieu cette année, mais à distance en raison des contraintes sanitaires. Après l'annulation de l'édition 2020, la population bellerine devra encore attendre avant de retrouver une manifestation normale. Au JO de Tokyo, une nouvelle médaille suisse pourrait tomber en beach volley. Johanna Heydrich et Anouk Vergé-Després sont en demi-finale. Et sur la Riviera, les amateurs de sport à roulettes ont bravé la pluie ce week-end au bucolique freeride.
Et averse, précipitations et accalmie, c'est le programme météo pour ces prochaines heures. On fait un point complet après le journal. Le journal de la mi-journée avec Thierry Nicolet. Bonjour Thierry.
Bonjour Stéphane et bonjour à tout le monde. Le Valais lance l'application Ice Watcher. Le but est de répertorier et sauvegarder les vestiges en péril issus des glaciers. Sous l'effet du réchauffement climatique, ces derniers libèrent des éléments piégés parfois depuis des centaines, voire des milliers d'années. Les pratiquants de la montagne pourront ainsi notifier toute observation et seront en mesure de fournir des informations essentielles. Cette démarche de science participative permettra à l'Office cantonal d'archéologie d'évaluer la pertinence des découvertes et d'engager les moyens adéquats quoi pour les préserver. Les deux organismes valaisans de développement régional souhaitent coopérer plus étroitement. L'antenne Région Valais-Romand et Regions und Wirtschaftszentrum Oberwallis ont signé ce matin une charte commune, laquelle a pour ambition de renforcer la collaboration sur des projets qui touchent aux intérêts des deux parties du canton. Le programme WIWA a été cité en exemple. Il soutient le recrutement des spécialistes étrangers indispensables au développement de certains secteurs économiques.
La santé par l'alimentation.
L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, a affirmé un jour le leader sud-africain aujourd'hui décédé Nelson Mandela. En remettant en priorité la santé par l'alimentation, les organisateurs du festival 1.1 qui se déroulera au domaine agricole bio de La Pérole à Aigle du 20 au 22 août prochain entendent ainsi inviter les visiteurs à prendre conscience de manière pédagogique de l'énergie, du bien-être physique et psychique qu'ils peuvent retirer des aliments vivants. C'est un dossier que nous propose Yves Terrani.
Le principe du festival 1.1 est simple. Il s'agit de permettre aux personnes qui y participeront de remettre la priorité sur leur santé par l'alimentation, comprenez d'utiliser la cuisine comme moyen de thérapie pour se retrouver, s'écouter, développer ses sens. Car il est une question essentielle, comment a-t-on pu, au fil du temps, se perdre en route avec quelque chose d'aussi important que la manière de se nourrir? Et cette question, nous l'avons posée à la nutritionniste Françoise Bon. Elle participera au festival.
Bon, je pense tout simplement le profit. Le profit, toujours plus, toujours gagner plus. On l'a vu après la Deuxième Guerre, où il y a eu un essor industriel totalement phénoménal. Finalement, ça profite quand même à certains grands groupes, à une certaine élite. Et puis, ben voilà, on s'est oublié à partir de ça. Et on a oublié qu'on était responsable de notre santé. Et que pour ça, il y a des évidences qui font partie de cette santé qu'on a choisi de mettre de côté.
Et l'alimentation est, selon Françoise Bon, l'une de ces évidences laissées sur le bord de la route. Mais pour les organisateurs du Festival 1.1, il est encore possible de renverser la vapeur, d'inspirer et de motiver les festivaliers à prendre soin d'eux en devenant acteurs du changement et même de le faire dans une ambiance festive, comme nous le confirme Jonathan Cibot, membre de l'association Tous dans le même bain qui organise le rendez-vous Aiglon. Nous lui avons demandé ce que proposera ce festival et il nous l'assure, on y trouvera de quoi faire comme on dit.
Oui, il y aura tout, ouais. Ce sera une belle salade de fruits. Il y aura de la danse, de l'impro, de la musique, des défilés de mode. Il va y avoir des nutritionnistes qui seront présents pour vous faire tester des nouvelles choses, et vous ouvrir les yeux sur différentes manières de cuisiner. Vous pourrez mettre la main à la pâte, aller chercher des tomates en pleine serre, planter vos propres salades. Vous pourrez tout faire. Du coup, on va faire au mieux pour que ça ait lieu. Et puis, avec toutes ces énergies, je pense que ça va, quoi qu'il se passe, donner un truc vraiment sympa. Donc, on se réjouit.
Pierre-Alain Schweitzer est le propriétaire du domaine de La Pérole. Il a été l'un des pionniers à se convertir à la culture 100% bio dans la région. Il considère que la pandémie a changé pas mal de choses en matière d'alimentation et que son métier est en train d'évoluer.
Je dirais oui, mais très 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 lentement. Donc il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent quand même aux produits locaux et puis à acheter des produits frais. Je pense que c'est déjà ça l'important, et de pouvoir le transformer soi-même à la maison, dans notre cuisine. Il y a de plus en plus, mais encore pas assez à mon avis.
Un optimisme mesuré donc. Maintenant, Françoise Bon en est convaincue, le festival 1.1 peut aider à changer encore plus les choses.
Il peut y contribuer, puisque c'est en faisant des petits pas, pas après pas, qu'on va inviter en tout cas les gens à peut-être avoir plus de réflexion par rapport à ça. Il ne va pas changer les choses en lui-même. Faut être lucide. Mais il va y contribuer. Moi, j'y crois. Je suis une grande idéaliste.
Il n'est pas trop tard ?
Il n'est jamais trop tard pour moi. jamais. Ça ne veut pas dire qu'on ne passera pas par certaines grandes difficultés. Mais je pense qu'il n'est pas trop tard. Il y a beaucoup de gens qui s'éveillent et je suis très optimiste par rapport à ça, tout en étant lucide sur les passages éventuellement qu'on pourrait passer.
Et quelque part, le Covid, c'est un coup de pouce inespéré.
Oui, moi je pense que c'est le cadeau caché, en fait, derrière. Hein, il y a quelque chose qui nous effraie tous, plus ou moins, qui nous met dans un mal-être. Mais derrière tout ça, si la réflexion... elle est vraiment posée. Oui, je pense que c'est le cadeau caché. C'est de dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre rôle ici? Qu'est-ce qu'on est en train de faire?
Le festival 1.1, ce sera donc du 20 au 22 août prochain sur le domaine de Pérols à Aigle.
Précisons que vous pouvez trouver plus d'informations à propos de ce festival sur le site internet www.tousdanslememebain.ch.
La 49e édition de la Nuit du Bélier aura bien lieu, mais à distance, le 14 août prochain.
Après avoir dû annuler complètement l'édition 2020, le comité d'organisation a dû se résoudre une nouvelle fois à abandonner l'idée d'une fête qui rassemble la population bellerine. Les contraintes sanitaires, même relâchées, sont encore trop fortes pour une organisation totalement bénévole. Christophe Barbeza, président du comité d'organisation de la Nuit du Bélier.
Une 49e édition, mais différente des autres années. C'est une 49e édition qui va mettre en avant deux choses. La première, c'est l'aide aux commerçants au niveau de la vente de paniers repas jusqu'au 6 août, avec trois paniers différents. Et la deuxième, c'est une web radio éphémère, où le but est de, le jour même, le 14 août, de 17h à 2h du matin, où nous allons l'animer, mettre les groupes de musique qui, normalement, devaient passer sur site. Et dans le but, en fait, c'est de faire la fête tous ensemble, malgré tout.
Tous ensemble, à distance. Il y a beaucoup de manifestations qui se font tout de même, malgré la situation, avec les contraintes. C'était trop compliqué pour vous?
Oui, alors faut dire qu'on est vraiment un comité bénévole, 100% bénévole. La décision a été prise fin avril. Et c'est vrai qu'on attendait d'avoir de l'aide, en guillemets, d'un message positif de la Confédération et du canton de Vaud en disant oui, c'est possible de le faire avec des circonstances atténuées. Et ce qui n'était pas du tout faisable, pour vous rendre compte, c'est qu'on est autour du parc de la Grande Salle, au niveau de B. C'était faire 170 mètres de barrière de 2 mètres de haut avec un Securitas qui devait contrôler les personnes. On n'a pas l'argent, on n'a pas les moyens financiers pour le faire. Donc on a décidé de la faire autrement.
Bon, comme toutes les fêtes de village, cette fête-là, la fête de la Nuit du Bélier, a une fonction, c'est de réunir les gens. C'est pour ça que vous avez voulu faire ce concept, finalement, où chacun chez soi ou dans la nature, on pourra quand même communiquer d'une certaine façon.
Oui, le but de la Nuit du Bélier, c'est, comme vous l'avez très bien dit, c'est d'aller depuis les plus jeunes, avec une bourse aux jouets, aux plus âgés expérimentés, comme les danses de salon, avec un thé dansant. Et c'est vraiment de réunir toute la population bellerine, entre autres, hein, parce que ça va un peu plus loin que les frontières bellerines, sur une fête d'ensemble. De ce fait-là, l'idée était de se dire, allons prendre notre panier repas, allons nous mettre dans la nature, parce qu'on a un panier pique-nique, par exemple, ou un panier barbecue, ou un panier chili con carne. Et en même temps, eh bien, d'écouter cette radio, de pouvoir la voir via aussi Facebook, puisqu'on se filmera, et d'arriver avec des interviews, avec pourquoi pas aussi des animations. On est en train de vraiment tout mettre en place pour que les bellerins et les bellerines, entre autres, qui nous écoutent, passeront un bon moment en famille.
Bon, il y a un mot que vous avez prononcé, mais on va insister un peu dessus, c'est le soutien aux commerçants locaux. Hein. Alors évidemment, devenu encore plus essentiel avec la situation pandémique que nous vivons depuis plusieurs mois. Ça vous tient à cœur?
Ça nous tient à cœur parce que c'est vrai que moi-même, je fus le premier à aller dans les commerces locaux pour aller les soutenir, pour changer totalement ma vision personnelle de comment est-ce que, où aller consommer, quoi consommer. Et ça a été peut-être le point positif personnel de cette situation-là. Ça m'a permis de rencontrer mon boucher, mon laitier, qui sont toujours actuels, et se dire que malheureusement, eh bien, il n'y a pas tout le monde qui a cette chance-là. Moi, je l'ai parce que j'ai un emploi sûr, mais pas forcément tout le monde. Et le but était de se dire, on a des commerçants qui sont à la SIC de B, et mettons-les en avant, allons généreusement leur proposer de pouvoir mettre leurs produits, se faire connaître, et puis pourquoi pas que des personnes comme moi qui ont découvert ça grâce à la pandémie, eh bien, puissent aussi avoir ce biais-là et voir à quel point les aliments sont C'est vraiment bon à manger.
Bon, édition particulière donc, et qui restera peut-être dans les mémoires parce qu'elle marquera la renaissance d'un esprit satirique, Abbé, dites-nous ça.
Oui, alors l'idée était que comme cette 49e édition était différente, ça a été de relancer un journal satirique qui sera quand même un peu indépendant au niveau des plumes que de la Nuit du Bélier, mais qui va se calquer comme l'ancienne Salière, qui est malheureusement a eu un avis mortuaire en août 2013 et qui n'a plus existé. Donc B n'a plus de journal satirique depuis 7 ans.
L'éthique, c'est le titre de ce journal satirique, paraîtra chaque année en marge de la fête villageoise. Il sera vendu dans différents commerces bellerins le 12 août prochain. Toutes les infos sur www.b-lié.ch, un sujet préparé par Florian Barbet. Le journaliste Jean-François Nicot est décédé vendredi dernier à l'âge de 83 ans, avons-nous appris ce matin par sa famille. Il était entré à la télévision suisse romande, ancêtre de la RTS en 1964. Durant sa carrière, Jean-François Nicot a participé à de nombreuses émissions, parmi elles Madame TV, Horizon, Vie littéraire, Un jour une heure ou encore De ci de là. Originaire du district d'Échallens dans le canton de Vaud, il avait pris sa retraite en 2000.
L'opposition à l'initiative 99% est lancée aujourd'hui en Suisse.
Le comité interparti à l'origine de cette contestation est composé de sections jeunes du Centre Suisse, du PLR, de l'UDC et du PVL. Selon les instigateurs, tous des jeunes entrepreneurs et agriculteurs, l'initiative de la jeunesse socialiste menace leur start-up, leur ferme ou leur entreprise familiale. Pour rappel, l'initiative 99% souhaite mettre à contribution le 1% des Suisses les plus riches afin de lutter contre les inégalités sociales. Pour les opposants, la rhétorique employée par la jeunesse socialiste dans le cadre de cette initiative est celle de la lutte des classes. Ils ajoutent qu'avec ce texte, les gains sur le capital seront imposés dès les premiers francs, mettant un grand nombre d'entreprises en difficulté.
Les ménages suisses n'ont plus été aussi optimistes qu'aujourd'hui depuis 2010.
C'est ce que révèle aujourd'hui l'indice du climat de consommation établi par le secrétariat d'État à l'économie. Selon ces derniers, l'optimisme est dû essentiellement à l'amélioration en juillet des attentes sur l'évolution générale de la conjoncture, tant sur le plan de la consommation et du chômage que de la situation financière. Mais certains points négatifs demeurent. Ils concernent tous la situation présente de l'économie, avec en particulier la sécurité de l'emploi. Parallèlement, l'évolution des prix pèse sur le budget des ménages. Avec la remontée de l'inflation, l'évolution passée et future des prix est jugée nettement plus élevée. À l'étranger, Vitali Tchitchov, le directeur d'une ONG aidant les personnes ayant fui le Bélarus, a été retrouvé pendu dans un parc de Kiev, a indiqué aujourd'hui la police, qui a ouvert une enquête pour meurtre. L'homme de 26 ans habitait depuis peu en Ukraine. Selon l'une des versions étudiées, il pourrait s'agir d'un meurtre camouflé en suicide, a ajouté la police. L'ONG Maison Bélarus en Ukraine indique que tout a été planifié par le régime d'Alexandre Loukachenko. L'affaire de Vitali Tchitchov intervient peu après un incident aux Jeux Olympiques de Tokyo avec la sprinteuse bélarusse Kristina Tsimashvili. Manouskaya, qui dit avoir été contrainte de se retirer de la compétition, est menacée d'un rapatriement forcé pour avoir critiqué sa fédération sur les réseaux sociaux. L'athlète de 24 ans s'était réfugiée à l'ambassade de Pologne, dont elle a obtenu hier un visa humanitaire.
L'explosion dévastatrice d'il y a un an jour pour jour à Beyrouth fait reparler d'elle.
Aujourd'hui, l'ONG Human Rights Watch a accusé les autorités libanaises de négligence criminelle, de violation du droit à la vie et de faire barrage à l'enquête locale sur la tragédie. Dans un rapport de 126 pages, l'ONG a documenté les multiples manquements des instances politiques et sécuritaires dans la gestion de ce stock de matières dangereuses depuis son arrivée au port en 2013 jusqu'à son explosion. Les preuves suggèrent avec force que certains responsables gouvernementaux étaient conscients du risque de mort que la présence de nitrate d'ammonium au port pouvait entraîner et ont tacitement accepté de prendre ce risque, a déploré Human Rights Watch. Ces derniers ajoutent même qu'ils avaient averti les autorités douanières de déplacer les matières explosives en 2014 déjà, sans que rien ne soit fait. La déflagration de l'an dernier a fait 214 morts et plus de 6500 blessés. 300 000 personnes avaient vu leur habitation détruite. L'ultra-conservateur Ebrahim Raisi est le nouveau président de l'Iran. Il devra s'atteler à redresser une économie minée par les sanctions américaines et la crise sanitaire et relancer les pourparlers pour sauver l'accord international sur le nucléaire. Ebrahim Raisi a déclaré que son gouvernement allait tenter de lever les sanctions américaines imposées à son pays sans néanmoins attendre des étrangers qui l'aident à améliorer sa situation. Le nouveau président a déjà du pain sur la planche. Washington et Londres ont rejoint Israël en accusant l'Iran d'être derrière une attaque contre un pétrolier géré par un milliardaire israélien en mer d'Oman qui a fait 2 morts le 29 juillet. Les États-Unis ont menacé d'une réplique appropriée. L'Iran a de son côté nié toute implication, avertissant qu'il répondrait à tout aventurisme s'il était pris pour cible.
Une bonne nouvelle pour les fans du Seigneur des Anneaux.
Et oui, la série du même nom sera diffusée dans le monde entier à partir du 2 septembre 2022, a annoncé hier Amazon. La plateforme espère ainsi rivaliser avec Game of Thrones. Amazon, qui avait acquis en 2017 les droits télévisés de cette œuvre culte pour une somme estimée à 250 millions de dollars, a précisé dans un communiqué que le tournage de la première saison s'était achevé hier en Nouvelle-Zélande. Les épisodes de la première saison seront diffusés semaine après semaine, a précisé le groupe, qui a diffusé une première image de la série sur les réseaux sociaux. Et on passe à la page sport. Julien Traxel m'a rejoint. Le beach volley pourrait bien rapporter une nouvelle médaille à la Suisse aux Jeux Olympiques de Tokyo. Cette nuit, Johanna Heydrich et Anouk Vergé-Després ont composté leur ticket pour les demi-finales du tournoi féminin. Il ne leur faut plus qu'une victoire pour s'assurer une breloque, Julien Traxel.
Et oui, Johanna Heydrich et Anouk Vergé-Després ont réalisé un petit exploit aujourd'hui sur le sable de Tokyo. La Zurichoise et la Bernoise ont écarté les Brésiliennes Anna Patricia et Rebecca en 3-7, 21-19, 18-21, 15-12. C'est la deuxième fois seulement qu'une paire suisse atteint le dernier carré d'un tournoi olympique dans cette discipline. Seul Patrick Heuscher et Stefan Kobel y étaient parvenus lors des JO d'Athènes en 2004. Ils s'étaient alors parés de bronze. Mais pour se qualifier pour les demi-finales, les deux joueuses helvétiques ont sué. Il faisait en effet très chaud ce matin dans la capitale japonaise. Les explications d'Anouk Vergé-Després.
On a bien joué dans le premier set. Après, elles font de la pression. Elles ont bien servi. Nous, on avait beaucoup de réceptions qui étaient un peu plus loin du filet. Après, c'est plus difficile à se mettre dans une bonne situation d'attaque pour voir le jeu, où elles sont, etc. Deuxième set nous échappe comme ça, je pense. Et le troisième set, on sait que ça, le premier qui arrive à 15, c'est un set assez court. Il faut vraiment, depuis le début, se donner à fond. Ce qu'on a fait, c'était très équilibré. Après, on a changé de joueuse pour prendre celle qui a peut-être encore moins de rythme de side-out. Et ça nous a donné quelques points. Après, ils sont revenus. Ça a donné de la pression de notre côté. Mais je pense que la tête et le mental a aidé beaucoup à rester calme et à juste lutter pour chaque point.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial aux Jeux Olympiques, Émilie Momenthaler. Anouk Vergé-Després et Johanna Heydrich ne sont donc plus qu'à une victoire d'une médaille. En demi-finale jeudi, elles défieront les Américaines April Ross et Alix Klinman.
En voile, deux Suissesses disputeront la medal race dans la catégorie des dériveurs 470. Mais la mission pour monter sur le podium s'annonce périlleuse.
Mayana Siegenthaler et Linda Farny n'ont pas eu de mal à intégrer le top 10 du classement général au terme des séries. Après 10 régates, les deux navigatrices du lac de Thun ont terminé au cinquième rang. Elles seront donc au rendez-vous de la course pour les médailles, mais avec 16 points de retard sur le podium provisoire, la tâche s'annonce compliquée pour les Suissesses.
En cyclisme sur piste, l'équipe de Suisse de poursuite devra se contenter au mieux de la 7e place.
Après une qualification très décevante hier, le 4 helvétique a eu le mérite de rectifier le tir aujourd'hui. Les recades effectuées ont notamment porté leurs fruits. Le Neuchâtelois Valère Thiébaud et le Vaudois Terry Scheer, associés à Cyril Thierry et Stéphane Bisseglère, ont établi un nouveau record national en 3 minutes 49 secondes et 111 millièmes. Mais ils sont tout de même restés loin de l'Australie qui a remporté ce duel face à la Suisse avec près de 5 secondes d'avance. Conséquence, les protégés de l'entraîneur Daniel Giesinger, résident de Lézin, disputeront demain la finale pour la 7e place, comme en 2016 au JO de Rio.
Direction à présent la piste du stade olympique pour parler d'athlétisme avec une belle performance suisse à signaler en ce début de journée.
William Reis est en effet parvenu à s'extraire des séries du 200 mètres. À tout juste 22 ans, le Grison a pris la troisième place de sa course avec un chrono de 20 secondes et 51 centièmes. Le récent champion d'Europe des moins de 23 ans a ainsi été repêché au ton pour les demi-finales. Et chez les dames, l'heure sera à la finale cet après-midi sur le 200 mètres. Une finale à laquelle prendra part Mujinga Kambunji. Alors qu'elle tient la forme de sa vie, la Bernoise devra sans doute battre son propre record de Suisse si elle entend décrocher une médaille. Car derrière les Jamaïcaines Helen Thompson-Herah et Shelly-Ann Fraser-Pryce, la lutte s'annonce ouverte. Mais Mujinga Kambunji préfère garder la tête froide.
J'ai atteint le but final. Je crois que devant, ça va se passer en 21-60 ou plus rapide, je ne sais pas. C'est clair, j'essaie de faire mon meilleur chrono et puis juste de faire une bonne propre course. Et si je fais une bonne course, je pense que je peux vraiment courir vite. Cette fois, j'espère national record sans les petits traits. Je sais que je peux courir plus vite. J'ai dans les jambes. Après, c'est un championnat, c'est pas toujours facile parce qu'il y a quand même encore un autre but. À la fin, c'est plutôt la place qui compte et pas forcément les chronos. Mais je sais que je peux courir plus vite, j'espère que je peux le faire.
Des propos là aussi recueillis par notre envoyée spéciale à Tokyo, Emily Momentaler. Et cette finale du 200 mètres des Jeux Olympiques avec Mujinga Kambunji est prévue à 14h50 heure suisse.
De son côté, Julien Vanders a préféré faire l'impasse sur les demi-finales du 5000 mètres.
La jeune voix a renoncé à s'aligner aujourd'hui. 21e du 10 000 mètres vendredi dans la capitale japonaise, il a préféré rentrer en Suisse. Et un dernier résultat d'athlétisme pour finir, afin de vous dire que le Norvégien Carsten Warholm a pulvérisé le record du monde du 400 mètres et grâce à un tour de stade en 45 secondes et 94 centièmes, soit 76 centièmes de mieux que sa précédente marque de référence. Le sprinter scandinave s'est paré d'or. Il a devancé l'Américain Ray Benjamin et le Brésilien Alisson dos Santos.
Merci beaucoup Julien. On notera encore qu'en hippisme, les qualifications du saut d'obstacle viennent de commencer. Trois cavaliers suisses sont en lice.
Dans la région, le bucolique Freeride a une nouvelle fois mis les sports à roulettes à l'honneur ce week-end.
Le rendez-vous des avants sur les Hauts de Montreux a encore attiré certains des meilleurs spécialistes du pays entre vendredi et dimanche. Malgré une météo pas toujours favorable, les dizaines de participants n'ont pas tremblé au moment de s'élancer sur la descente de 2 km entre Sonloup et le centre du village des avants. Dans la catégorie longboard, le jeune gruérien Greg Schwab a notamment joué les premiers rôles. Il a particulièrement bien su s'adapter à la pluie et à la route détrempée. Les impressions de Greg Schwab.
On savait à l'avance que la météo elle serait pas super stable, mais on a prévu d'avoir des routes pluie et d'autres choses en cas de pluie. Et du coup, ben, c'est ce qui s'est passé, on était équipés et puis on fait avec les conditions, quoi.
Du point de vue de la route, comment ça se passe? On imagine évidemment qu'avec la pluie c'est plus glissant, mais est-ce qu'il y a d'autres composantes avec lesquelles il faut essayer de jouer?
Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus glissant. On va peut-être moins vite sur les lignes droites, mais les zones de freinage deviennent beaucoup plus longues, donc ça devient très technique. En fait, suivant la quantité d'eau sur la route, ça change aussi comment est-ce qu'on doit freiner, etc. Donc il faut beaucoup plus réfléchir, je dirais.
Greg Schwab au milieu de Julien Traxel qui est décidément partout. Malgré ses conditions difficiles, le jeune rider gruérien a remporté le chrono individuel de ce bucolique 2021 dans la catégorie longboard. Il a en revanche dû se contenter de la deuxième place dimanche lors de la course.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec le Croution et son nouveau spectacle Le Grand Bazar, la revue qui pique. Du 3 septembre au 2 octobre, Bouvray sous chapiteau, croution.ch.
Les averses devraient arriver dans les prochaines heures selon Météo Suisse. Elles seront de plus en plus fréquentes au fil des heures et vont se poursuivre durant la nuit. Côté température, on attend 20 degrés en pleine, 16 à 1000 mètres et 10 à 2000. Pour demain, le réveil se fera sous les précipitations. Les pentes et les sommets seront même dans le brouillard jusqu'en fin de journée, moment où une accalmie devrait se profiler à partir de l'ouest. Enfin, côté Mercure, on oscillera entre 13 et 19 en pleine, entre 10 et 15 à 1000 mètres et entre 6 et 11 à 2000. Vous retrouvez une météo à 6 jours sur notre site radiochablais.ch.